L'homme ignore ish et bito. Et si un homme vient à vendre sa fille, donc ça lui est possible que si la fille est là, moins de 12 ans, il ne la vendra pas. C'est le Hama. Comme Hama, c'est pas marqué le Shifra. L'otetsek et tsetavadim. Elle va pas travailler et ensuite sortir de ça. Elle va pas être traitée comme une esclave. Imra'a bene adonea, asher si le maître ne la veut pas l'épouser. En réalité, le yihud, c'est une façon d'épouser. Alors, ou lui, alors s'il ne le veut pas, alors l'anochi lo yimshol le mochro bevigdoba. Il ne pourra pas la vendre comme esclave. Il devra la libérer. Vim le livnoi adena. Par contre, elle pourrait épouser le fils. Mais si elle épouse le fils et le fils, par exemple, il épouse une deuxième femme, il n'aura pas le droit de traiter la femme qu'il a épousée en premier dans le cadre de ce que ce Yihoud, là, dont on parlera un peu après, il n'a pas le droit de la traiter moins bien que l'autre. Pas parce qu'elle est entrée d'une autre manière dans le mariage qu'il aurait le droit de ne pas lui donner ce que un homme est obligé de donner de toute manière à une femme quand il se marie avec elle, les fameux Sheherak Suta Veonata, c'est-à-dire les. Elle a le droit d'exiger que dans l'intimité, ça se fasse peau à peau, c'est-à-dire sans vêtements. Il doit lui payer évidemment des vêtements et il doit lui satisfaire ses besoins sexuels réguliers. Il n'aura pas le droit de privilégier une des femmes par rapport à celle-là, enfin l'autre femme par rapport à celle-là. Et s'il ne fait pas ça, viatsa chinam en kasef. Immédiatement, elle est libre, et gratuitement, évidemment. Alors, ce que je voulais remarquer avec vous ici, c'est qu'on parle d'un esclavage. Alors, ça commence un peu drôlement, parce qu'on dit, si tu acquiers un esclave, il t'y Eved Ivri. On est entre juifs là, entre hébreux. Ouais. Si tu achètes un esclave, alors il faut savoir que l'esclavage, a priori, c'est un esclavage pour tout le temps. Quand tu achètes un Eved, tu ne l'achètes pas pour X années, etc. Il devient ton Eved, c'est un Eved Olam. Quand on achète un esclave, il reste toute sa vie esclave.
Oui.
Non, non, ce n'est pas l'Yovel ici. De façon générale, non, je parle de façon générale de la notion d'esclave dans l'Antiquité, etc. Il est esclave pour toute sa vie. Ici, la Torah, elle commence par dire, entre hébreux, entre juifs, ça n'existe plus. Ça n'existe pas. Au bout de 6 ans, il est libre. Et alors on pourrait dire, mais en fait, quand il l'a acheté, comme acheté, ça veut dire pour tout le temps, et puis s'il sort au bout de 6 ans, la 7e année, ben, il faudra qu'il rembourse un peu une partie des autres années, quoi. Pas du tout. Il sort gratuitement. Donc, il sort, au bout de la 7e année, il sort gratuitement. Et puis, l'essentiel de ce qu'on va nous dire concerne quelque chose d'étrange, parce que quand on achète un esclave, on pourrait dire, ben voilà comment tu dois le traiter. Il manque pas d'halakhot pour un esclave hébreu. On a les obligations, si on a que c'est un peu paradoxal, parce que s'il n'a qu'un seul coussin, il est obligé de donner à l'esclave, il n'a pas le droit de le prendre pour lui, parce que l'esclave, le pauvre, il ne doit pas ressentir qu'il est moins bien. Donc, Il peut pas lui faire faire des travaux trop difficiles, etc. Bon, c'est ça qu'on se serait attendu à avoir dans les halakhot, là, tout de suite. De quoi on nous parle? On nous parle de mariage. On dit, il peut pas se marier, ou il peut se marier. Ou... Qu'est-ce qu'on dit? On dit, s'il n'est pas marié, enfin, de façon générale, il peut pas se marier. Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas se marier? À votre avis, pourquoi est-ce qu'il peut pas se marier?
Parce qu'il n'est pas un homme
Pourquoi est-ce
libre.
qu'un esclave ne se marierait pas?
Ben parce que ses enfants seraient des esclaves.
Pardon, mais non, pas du tout. Il se marierait avec une femme juive libre.
Oui.
Lui, il appartient à son maître, et certains, peut-être, n'aimeraient pas avec.
Ah, mais.
Non, mais même, je crois que l'idée, c'est, regardez le lui. Lui, il va se marier maintenant. Quelqu'un qui est esclave et qui se marie, sa femme, elle le voit comme quoi? Elle le voit comme un esclave. D'accord? Ça veut dire, et au bout de 6 ans, 7 ans, 7e année, ils vont être libres. Mais il se sera marié avec elle alors qu'il était esclave, c'est-à-dire elle le regardera toute sa vie comme un esclave. D'accord? Il va pas y avoir entre eux des rapports normaux. D'accord? Parce que, bon, c'est comme ça, c'est une mentalité. Ils ont vécu avec une mentalité d'esclave, et il a une mentalité d'esclave, en tout cas pendant qu'il l'est. Après, on dit, si lui, il est marié, il n'a pas le droit de divorcer. Pourquoi? Parce que sinon, on va dire, oui, il est divorcé, mais c'était parce que c'est des conditions particulières. Il était esclave, il ne pouvait pas vraiment jouer son rôle de mari, etc. Donc leur couple était bancal. Donc on ne veut pas qu'il divorce à ce moment-là. Si tu veux divorcer, tu divorceras quand tu seras libre. Si tu es marié libre, ben, tu divorceras quand tu seras libre. Tu n'as pas le droit. Et puis si, puisque c'est la loi, si le maître te donne une femme, c'est pas du tout une femme avec laquelle tu dois envisager de vivre au sens de former un couple. C'est juste que le maître, il peut te demander de travailler la nuit aussi, de lui fabriquer des petits esclaves. Donc c'est pas du tout, normalement, il doit pas, on ne lui donnera une femme pour faire des esclaves que si lui il est déjà marié. Ça veut dire il est quand il vit chez son maître comme esclave, il a une femme avec éventuellement des enfants. Donc il a une vie maritale, mais qui continue la vie maritale qu'il avait avant de se marier. Donc il a une femme, et puis bon, alors le maître l'oblige en quelque sorte à avoir des rapports avec une servante pour produire des. Mais il n'est pas du tout question qu'il construise quoi que ce soit avec elle. Et si jamais, tout à coup, il a rien compris et il a construit quelque chose avec elle, parce que la femme dont on dit, j'aime ma femme et j'aime mes enfants, de qui il parle? Il parle de la femme esclave qu'on lui a donnée. Parce que sa femme, quand lui va sortir, elle va sortir avec lui. Mais celle qui ne va pas sortir avec lui, il dit, mais moi je préfère rester esclave, comme ça je peux rester avec elle. Donc il n'a rien compris, il a construit une vraie relation maritale, je ne dis pas la relation avec sa vraie femme, éventuellement avec ses enfants. D'accord? Mais en tout cas, voilà, ce type-là, il dit, je préfère rester esclave pour pouvoir être proche d'elle. Donc, tu n'as rien compris, mais bon, si tu... On va lui expliquer que c'est pas bien, que c'est pas, la Torah, elle veut pas ça. Mais si vraiment il veut, alors dans le code d'Hammurabi, ça existait, même chose. Si un esclave voulait rester au-delà d'un certain temps, il pouvait rester, mais on lui arrachait l'oreille. Montrer qu'il est, voilà, il reste esclave. La Torah, elle dit, on va le poinçonner, l'oreille. On va le marquer dans son oreille. Mais on va pas le Et à la limite, quand on va dire, ben voilà, tu es attaché à la maison maintenant. On va te coller à la maison avec un clou, quoi. Donc, on voit que la Torah, elle a voulu faire très attention que la condition d'esclave, qu'elle ne bouleverse pas la vie des gens. La notion d'esclave, si vous voulez, avant la révolution industrielle, ben les esclaves, c'était une nécessité, quoi, si on voulait faire marcher les gens. Si on n'avait pas d'esclaves, on ne pouvait pas travailler. Un employé, un ouvrier qui peut partir quand il veut, ça ne permet pas de travailler sérieusement, quoi. Parce que la halakha est qu'un employé ou un ouvrier peut s'arrêter n'importe quand. Donc, il a un contrat, mais il peut s'arrêter quand il veut. Et pourquoi on ne peut pas l'obliger à continuer? Parce que l'obliger à continuer, ça ferait de lui un esclave. Il serait plus maître de son temps. Il deviendrait esclave. Et la Torah ne veut absolument pas qu'on devienne esclave. La Torah, elle est contre l'esclavage. Alors, si quelqu'un veut. Alors, évidemment, il y aura ensuite deux sortes de Eved Ivri. Il y a le Eved Ivri qui est devenu Eved parce qu'il a volé et il ne peut pas rembourser. Alors, c'est une façon de rembourser par son travail. Et puis, il y a celui qui ne veut pas affronter la vie et qui préfère être esclave que d'affronter la vie. Si vous voulez, suivant à qui on parle, on peut dire, voilà, c'est quelqu'un qui a décidé de devenir fonctionnaire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il faut comprendre ce qui se passe. Le type, il se vend comme esclave. Mais s'il a une famille, le maître, il prend toute la famille en charge. Mais la famille, elle ne devient pas esclave. Alors, bien sûr que la femme, elle va bien devoir un peu travailler dans la maison parce qu'elle ne va pas être nourrie, logée, toute la famille, sans rien faire du tout. Mais c'est tout, elle fera la même chose que ce qu'elle aurait fait chez elle à la maison. Et donc, si ça se trouve, ça peut lui coûter de l'argent au maître. Donc, à la limite, il faut se le payer, un esclave. C'est pas. Donc, quelqu'un. Seulement, l'avantage pour l'esclave, c'est qu'il est nourri, logé, blanchi, lui et sa famille. Il ne fait pas des travaux difficiles parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Il travaille pour quelqu'un, mais bon, tous les gens qui travaillent. On ne peut pas le faire travailler, pas des gros travaux, etc. Il n'y a pas le droit. On ne peut pas le faire travailler comme ça. La famille, elle est, voilà, nourrie, logée, blanchie. Sa femme, elle travaille. Bon, normalement. Et donc, il n'a pas de problème de chômage. Il n'a pas à avoir peur de ne pas avoir à manger demain, de ne pas pouvoir donner à manger à sa famille. Il est tranquille. Donc, quelqu'un qui a peur d'affronter la vie, peut très bien avoir envie de se vendre comme esclave. Bon, évidemment, peut-être c'est pas glorieux aux yeux de sa femme. Bon, du coup, sa femme, peut-être, elle le regardera d'un mauvais œil. Mais bon, elle peut le faire. C'est pas une cause de divorce, à ma connaissance. Non, ça pourrait être. On pourrait dire, moi, je me suis marié avec un homme libre, je veux pas vivre avec un esclave. Même si c'est que pour 6 ans. La femme en question, elle va devoir accepter qu'effectivement le maître lui donne une autre femme avec laquelle il va passer des nuits et produire des enfants. En tout cas, ce qu'on ne veut pas, c'est que les relations interhumaines soient modifiées par le statut d'esclave. C'est ça qu'on ne lui laisse pas. Tu ne vas rien faire qui va changer ton statut pendant cette période-là. Tu étais célibataire, tu restes célibataire jusqu'à la sortie. Tu étais marié, tu restes marié. Ouais, bah. C'est une des raisons pour lesquelles peut-être, avec lesquelles on peut peut-être un peu essayer expliquer pourquoi est-ce que c'est la première chose qu'on rapporte dans la route de Mishpatim. Dans Mishpatim, on aurait pu. Il y a tout le code civil. Pourquoi on commence le code Mishpatim, c'est le code civil. En gros, il y a aussi le code un peu du pénal. Mais c'est quand tu racontes tout le code pénal, le code civil, alors mais raconte-moi le code civil. Pourquoi tu me racontes des histoires de mariage? Parce que les premières relations, les relations les plus proches, celui qui devient esclave, il change son statut. Et donc, qui est-ce qui est affecté? Eh ben, lui-même s'il est tout seul, et sa famille s'il est marié. Quand on a dit, l'esclavage, c'est une espèce de no man's land. Pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Sur ce plan-là. Donc, je veux rien, toi, ne veux pas. Et donc, on peut considérer qu'au fond, c'est le premier élément, parce que c'est la famille, l'individu ou la famille, la première structure à l'intérieur de la société, quoi. OK? Ça s'entend? Dont je voulais parler maintenant, surtout d'ailleurs, c'est la chose suivante. Vous vous souvenez que dans Parshat Yitro, on avait vu avant Matan Torah, avant Matan Torah, si vous voulez regarder dans votre Roumash, donc, c'est le chapitre, voilà. C'est le chapitre 19 au verset 5. On avait vu, Ve'ata, maintenant, im shamoa tishmeu bekoli, si vous écoutez ma voix, ushmartem et briti, et vous gardez mon alliance, alors, vitem li segula, vous serez un trésor pour moi parmi les autres peuples. Toute la terre est à moi, mais vous serez mon trésor. C'est-à-dire, vous aurez un statut particulier. Atem tiyuli, atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez une nation de gens importants. Mamlechet kohanim, c'est pas exactement des prêtres, c'est des gens importants, des princes. Et un peuple saint. Voici les paroles, dit Hachem à Moshe, que tu diras au Bnei Israël. Et Moshe est allé dire ça au Bnei Israël. Et au verset 7, au verset 8, Vayanu chol ha'am yachdav, le peuple tout entier, ensemble, Vayomru, et ils ont dit, kol asher diber Hachem, naaseh. Tout ce qu'Hachem a dit, nous allons le faire. Et Moshe a rapporté ces paroles du peuple à Hachem, l'engagement du peuple. Ici, le peuple s'est engagé à faire tout ce qu'Hachem a dit, qu'on a cher d'Iber, tout ce qu'Hachem a dit. Bon, alors maintenant, il faut garder la page. Regardons d'abord. Regardez Rachid. Excusez-moi, regardez Rachid là-bas. Rachid explique. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Im shamoa tishmeu bekoli, si vous écoutez ma voix, ushmartem et briti, et vous gardez mon alliance. De quelle alliance parle-t-on? L'alliance, dit Rashi, chez Erroth, l'alliance que je ferai, c'est un futur. Hachem annonce qu'il va faire une alliance imachem avec vous, les Bnei Israël, al shmirat ha Torah, sur le fait que vous allez garder la Torah. OK? Ça, c'est ce qui est dit dans le Rashi de Parshat Yitro avant Matan Torah. Alors maintenant, revenez là où on en était, à notre chapitre Kavdalet au 24. Chapitre 24. Alors, Vel Moshe Amar. Et à Moshe, Hachem a parlé, il lui a dit, Allez El Hachem, monte vers Hachem, Ata ve'Aaron, Nadav ve'Avihu, ve'Shivim Zikne Israël. Toi, Aaron, Nadav ve'Avihu, les deux fils d'Aaron, deux des fils d'Aaron, et 70 parmi les anciens d'Israël, Vishtarvitem Merachok. Et vous allez vous prosterner de loin. Vous allez monter un peu sur la montagne. Ils sont au pied du Sinaï. Montez un peu sur la montagne. Vous allez vous prosterner. Venigash Moshe Levado. Mais Moshe se rapprochera encore. Lui va continuer tout seul. Levado. El Hashem. Vehem Loigashu. Mais tous les accompagnateurs, Aaron, Nadav, Abihu, Zikne Israël, eux ne s'approcheront pas plus. Seul Moshe monte tout seul. Veha'am lo ya'alu imo. Le peuple ne montera pas du tout avec lui. Le peuple, il reste en bas de la montagne. Et vayavo, et donc, Moshe va venir, donc il va monter, il va avoir un il va parler avec Hachem, si on parlait comme ça, et va y saper, c'est un train. Le verbe est très drôle, ouais. Moshe va revenir, va y saper l'âme, et kol divrei Hachem. Il va raconter au peuple, va y saper, c'est le même mot que si pour Yetziat Mitzrayim, que le récit de la sortie d'Égypte, c'est le même mot, si pour, raconter. Il va raconter au peuple, Et kol divrei Hashem, toutes les paroles d'Hashem, vet hamishpatim, et les lois. Donc, il le raconte. Vayan kol ha'am, et le peuple, tout le peuple, répond, kol echad, d'une seule voix, et ils disent, kol advarim asher diber Hashem, naaseh. Ils disent une deuxième fois, tout ce qu'Hachem a dit, on va le faire. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté? Rashi. Vayavo Moshe vayisaper l'âme, bo bayom. Alors, Rachid nous a dit qu'on est ici le 4 Sivan. Vous vous souvenez, on a vu la semaine dernière, c'était le troisième Rosh Chodesh, Rosh Chodesh du troisième mois, le Rosh Chodesh Sivan, donc le premier Sivan. D'accord? Ce qu'on avait vu avant, là, que, ce dont on a parlé, que Moshe. Tout le monde va monter, puis Moshe, etc. Ça, c'était le premier Sivan. Et ensuite, les différents, il y a eu quelques montées de Moshe, où on dit Moshe est monté, redescendu, monté, etc. Donc, de fil en aiguille, on est arrivé aux quatre Sivan. On est passé du premier Sivan au quatre Sivan. Et le quatre Sivan, Bo Beyom, le jour même, le quatre Sivan, Moshe a raconté au Bnei Israël. Alors, regardez bien. Et kol divrei Hashem. Il a raconté toutes les paroles d'Hachem. C'est quoi les paroles d'Hachem? C'est mitzvah prisha ve'hagbala, c'est-à-dire la mitzvah de qui a été donnée au Bnei Israël. Si on est le 4 Sivan, ça veut dire qu'on est avant Matan Torah. Matan Torah, ce sera 2, 3 jours après. Et donc, qu'est-ce que les Bnei Israël ont reçu comme loi? Hachem leur a dit, les hommes et les femmes ne doivent pas avoir de relations conjugales pendant ces 3 jours pour se préparer, pour que les femmes ne soient pas impures. Et la loi de, on ne montera pas sur la montagne, et ceux qui sont un peu montés, ils ne monteront pas plus haut. Ensuite, c'est marqué, il va le raconter, il va le kol divrei Hashem, c'est ça. Et ensuite, ve'et kol ha-mishpatim, et toutes les mishpatim, toutes les lois. De quelles lois s'agit-il? Zayin mitzvot shenitzavu bnei Noach. Il va leur raconter les sept mitzvot qui sont les sept mitzvot ordonnées aux bnei Noach. Les Bnei Israël qui sont là, n'ayant pas encore reçu la Torah, formellement, ils ont un statut de quoi? De Bnei Noach. Ça va pas durer très longtemps, hein? Parce que dans 3 jours plus tard, ils vont devenir Bnei Israël, enfin, ils vont recevoir d'autres lois. Mais voilà, il leur a raconté les sept mitzvot des Bnei Noach, plus Shabbat, Kibbout Avaim, Para Aduma et les Dinim, ça, ce sont des mitzvot qui ont été donnés au Bnei Israël à Mara. Mara, c'était une des stations entre la sortie d'Égypte et maintenant, où ils sont arrivés, il n'y avait pas d'eau parce que l'eau était amère. Vous vous souvenez? Et du coup, Hachem a montré à Moshe comment il pouvait prendre un bout de bois et jeter ce bout de bois qui allait adoucir l'eau. À Mara, ils ont reçu quelques mitzvot. Ils ont reçu ces mitzvot qui sont dites, Shabbat, honorer les parents, Para Aduma, c'est-à-dire la procédure de purification de la Toumat Met, ça s'appelle la vache rousse. D'accord? C'est ce qui va permettre de fabriquer. En français, ça s'appelle les eaux lustrales. D'accord? C'est des eaux qu'on va asperger pour que quelqu'un puisse se purifier de la Toumat Met. Et puis des dinim, c'est-à-dire des lois civiles. Ça, ils l'ont reçu à Mara. Donc, il leur raconte des choses qui ont déjà été dites, c'est-à-dire les sept mitzvot des Bnei Noach, et ce qu'ils ont reçu à Mara. D'accord? C'est tout ce qu'il a. Et donc, quand les Bnei Israël ont dit de toutes les paroles qu'Hachem a dites, on va les faire, ils se sont engagés à quoi? À sept mitzvot des Bnei Noach et à ce qui a été donné à Mara. Il leur a raconté. Alors, ce qu'ont de particulier les sept mitzvot des Bnei Noach et ce qui a été donné à Mara, c'est que dans la Torah, dans notre Torah, elles ne figurent pas, pas explicitement. Les sept mitzvot des Bnei Noach, on les déduit de psukim d'un pasuk dans Bereshit, et Mara, c'est marqué. Dans le passage, c'est écrit Sham Sam Lo Chok U Mishpat, et un verset dont on déduit qu'il leur a donné Chok, un Chok comme Para Aduma, et Mishpat, les Mishpatim. Donc, il leur a raconté quelque chose qui, par la suite, ne sera pas écrit dans la Torah. Mais ça, il leur a raconté. Et là-dessus, ils se sont engagés. Donc, pour l'instant, ils sont engagés alors à des choses où, en tant que Bnei Noach, ils étaient automatiquement engagés, parce qu'on leur a rien demandé. Au Bnei Noach, on leur a pas demandé leur avis. La loi, elle s'impose. Ces lois-là s'imposent à tout le monde. Donc, Bnei Noach, c'est tout le monde. Les gens descendants de Noach, c'est l'humanité tout entière. Et oui, à Mara, on leur a donné des dîmes spéciaux, mais qui ne concernaient pas encore. C'est pas de la Torah, puisque ils n'ont pas encore reçu la Torah. OK? Ça, c'est donc ce qu'il a. Voilà. Après avoir raconté, alors, on reprend le verset. Le verset 4, Vayichtov Moshe et kol divrei Hashem. Alors, Moshe Rabbeinu a écrit à ce moment-là toutes les paroles d'Hashem. Qu'est-ce qu'il a écrit? Rashi. Vayichtov. Vayichtov Moshe, Mibreshit. Ve'ad Matan Torah. Moshe Rabbeinu a écrit ce qui dans la Torah est écrit depuis le récit de Bereshit jusqu'au moment où il se trouve, jusqu'au 4 Sivan, jusqu'à écrire, voilà, les ministres sont arrivés dans le désert du Sinaï et ils ont campé devant le Sinaï et Moshe est monté, etc. Voilà, stop. Cette partie de la Torah, il l'a écrite et il a ajouté Vekatav mitzvot shenitztavu bemara. Il a aussi écrit les mitzvot qui ont été écrites, qui ont été données à Mara. Breskerov, il se demande, est-ce que ce din d'écriture de la Torah que Moshe a reçu l'ordre d'écrire ici, est-ce que c'est le din que nous on connaît on a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah, d'écrire la Torah. Est-ce que Moshe, là, il a commencé à écrire la Torah? Ou est-ce que c'est un din spécial? Parce que ce Sefer, là, ce que Moshe va écrire, il va être appelé Sefer HaBrit, le livre de l'Alliance. Et c'est là-dessus que les Bnei Israël, qu'Hachem a dit aux Bnei Israël, si vous gardez mon alliance, de quelle alliance on parle ici? On parle de cette alliance-là. L'alliance, je ne l'ai pas fini de la décrire. L'alliance qui va de pair avec ce Sefer-là. Alors, il a écrit le Sefer en question. Et le matin, il s'est levé. Il a construit un autel, un Mizbéach, Tachatahar, au pied de la montagne. Et il a dressé 12 stèles, ça s'appelle des Matzevot, c'est-à-dire des pierres debout, correspondent évidemment aux 12 tribus. Et puis, il a envoyé et Nahare Bnei Israël, littéralement, il a envoyé les jeunes gens parmi les Bnei Israël. Alors, on va apprendre que le mot Nahare ici, c'est le pluriel de Nahar. Nahar, c'est un jeune homme, normalement, mais ça s'utilise aussi pour des gens qui sont moins jeunes. Mais ici, ça concerne non pas des, c'est pas un problème de jeunesse, c'est le problème suivant. Vous vous souvenez quand Yaakov a acheté la Bechora à Esav. Esav était le premier-né. Il avait donc ce fameux droit d'aînesse. Et Yaakov, à un moment donné, le lui a acheté. Contre le fameux plat de lentilles, là, D'accord, vous vous souvenez, Esav est revenu complètement affamé. Et Jacob, il avait cuisiné des lentilles parce que c'est une nourriture qu'on donne aux avélim, que c'était le moment de la mort d'Abraham. Donc, Yitzhak était en deuil. Et donc, son fils lui a préparé ce qu'on donne à manger aux endeuillés. On donne des trucs ou des œufs ou quelque chose qui est complètement rond. Et donc, il avait préparé ses lentilles. Et ça, il arrive, il est complètement affamé. Il n'est même pas capable de dire, donne-moi des lentilles. Il dit, qu'est-ce que c'est ce rouge-là? Ben, on sait pas, il y a une sauce, je ne sais pas quoi, enfin, avec ses lentilles. Donne-moi ça. Alors, il lui dit même pas que je vais le manger. Il lui dit, enfourne-moi. Je n'ai même pas la force de manger moi-même. Et Jacob lui dit, OK, je t'en donne, mais est-ce que tu me vends ton droit d'aînesse? Alors, Sam, il a demandé, c'est quoi le droit d'aînesse? Il a expliqué que être l'aîné, c'est être le prêtre. C'est-à-dire qu'avant l'invention des Kohanim, de la famille d'Aaron, ceux qui étaient en charge de faire le travail de la Avoda, au Beth Amikdash, etc., Mishkan, s'il y en avait eu un, là, en l'occurrence, il est en train de faire des korbanot. Il envoie ces gens faire des korbanot, alors qui ils sont? Ces Naharim, ce sont des Porot. Ce sont les premiers-nés. Parce que les premiers-nés sont systématiquement ceux qui doivent faire la Avoda. Et ce sera vrai jusqu'à la faute du veau d'or. Et à la faute du veau d'or, les prorotes vont participer à la faute. Et un prêtre qui a participé à une cérémonie d'Avodah Zara, il peut plus fonctionner comme prêtre, comme Cohen ou Hachem. Donc il a fallu remplacer les prorotes, et pour remplacer les prorotes, on a pris les descendants d'Aaron. Aaron est devenu grand prêtre, et ses descendants sont devenus Kohanim. Et la tribu de Lévi, en général, elle aussi, toute la tribu de Lévi va servir de remplacement pour les prorotes. Jusque-là, c'est les prorotes qui font le travail. Il y a des chitotes qui disent que dans le futur, on reviendra à cette situation-là. Parce que cette situation-là est bien plus agréable, parce que ça fait que tout le monde dans le peuple, toutes les familles, un jour ou l'autre, vont avoir des enfants, vont avoir des membres de la famille qui vont devenir des prêtres. Bon, si aujourd'hui mon enfant, mon premier, c'est une fille, ok, mais mon frère, il a eu un. Mon neveu, ça sera un Cohen, ou mon petit-fils sera un Cohen, etc. Tandis que avec les Kohanim, c'est devenu une secte. Une secte, il y a des gens, de père en fils, ils sont Kohanim. Et ce n'est pas la meilleure des solutions. En tout cas, là, Moshe, il a envoyé les Prorotes. Comme il avait construit un hôtel, il leur a dit, vous allez approcher des holot, c'est-à-dire des holocaustes, c'est-à-dire des korbanot où toute la viande est grillée, brûlée, sur le misbéach, veyisbechu zvachim shlamim, et aussi des korbanot qui sont des shlamim, c'est-à-dire des korbanot dont la viande est mangée par les propriétaires, si vous voulez. Pour Hachem, et ça sera des taureaux. Vaïkar Moshe, alors, ils ont fait ça. Et quand on approche des korbanot, alors, dans le korban, il y a toujours, on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a toujours deux aspects. Avec chaque korban, il y a le travail qu'on fait sur le sang. On recueille le sang de la shrita dans un gobelet. Et ensuite, normalement, On prend ce sang et on asperge l'autel avec des gouttelettes, avec l'index comme ça, on envoie des gouttelettes de sang sur le misbère. Alors là, ils ont dû faire ça. Donc ça, c'est le travail du sang. Et c'est ce travail du sang qui va apporter ce qu'on appelle la kapara dans un korban. Un korban, il efface les fautes. C'est le travail du sang. Et une fois que ce travail du sang a été fait, alors il y a une mitzvah de manger, le cas échéant, si c'est pas un holocauste, de manger la viande. Et pour manger la viande, alors, comme toujours, puisque ça a de la kedusha, on doit la manger dans un laps de temps défini et dans un lieu défini. C'est-à-dire, la kedusha, elle s'exprime par des limitations en temps et en lieu, dans le temps et dans l'espace. C'est pour ça que, par exemple, nous, le Korban Pessah, si on mangeait le Korban Pessah, si on en avait, d'accord, le Korban Pessah, il y a une machloket, Tanaïm, pour savoir est-ce qu'on doit le manger avant Chatzot, avant minuit, ou est-ce qu'on peut le manger jusqu'au matin. Mais plus que ça, on ne peut pas manger le Korban Pessah au petit déjeuner. Pas possible. Et si jamais il venait à en rester, ce qu'on n'espère pas, et s'il en reste, il faut le brûler parce que ce serait très dangereux de le laisser. Parce que si quelqu'un mange de ce qui est resté, ça s'appelle notar, qui veut dire reste. Si tu manges du reste d'un korban, c'est chayav karet. Super grave. Alors, ils ont fait ces korbanot. Et alors, Moshe, il a pris la moitié du sang. En fait, il les a recueillis dans deux gobelets différents parce que ils ont amené des taureaux et ils ont amené des cabris ou des béliers, enfin du petit bétail. Donc, le sang des taureaux et le sang des petits bétails ont été recueillis séparément. Et il a pris la moitié du sang et il a jeté une moitié de ce sang sur le misbéar. Là, il n'a pas dit qu'il a fait des. Il l'a jeté comme ça, de sang. Il a versé sur le sol. Et puis maintenant, Vayikar, Sefer HaBrit. Et il a pris le livre de l'Alliance. Le livre de l'Alliance, c'est le livre qu'il vient d'écrire. Rashi reprécise, c'est quoi le Sefer HaBrit? Mibreshit ad Matan Torah, ou mitzvot shenitztavu b'mara. Alors, le Briskerov, il avait demandé, est-ce que c'est un dîne ordinaire de Kriya? Il a répondu, ben, pas du tout, parce que Mara, c'est pas écrit dans la Torah, normalement. Marak, c'est que je vous ai dit, c'est une dracha qu'on fait sur le verset qui dit Sham Samlo Hokumishpat. Il y a un verset. Ce verset que je viens de vous dire, c'est de là qu'on déduit qu'il y a eu des mitzvot qui ont été données à Mara. Dans le texte, quand on lit le texte, on voit seulement que il y avait des eaux amères et que Moshe les a adoucies et que les Bnei Israël, ils ont bu ça. Et que là-bas, il leur a donné des lois, des décrets, des lois. Mais on va marquer lesquels. Or là, il les a écrits. Donc, du coup, on est obligé de dire que c'est une mitzvah particulière de fabriquer un sefer qui va s'appeler Sefer HaBrit. Après, je ne sais pas s'il va disparaître. Ce n'est pas le Sefer Torah. Donc, il prend ce sefer-là et il lit aux oreilles du peuple, il lit ce qui est écrit dans le livre. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le livre? Il y a écrit des choses qu'il leur a déjà dites oralement. Il en avait dit un peu plus même. Oralement, il avait aussi dit les Shevamisot des Bnei Noach. Et ça, il n'a pas réécrit ça. Bon, donc, de toute manière, Ils ont déjà entendu ça oralement. Et maintenant, ils l'entendent lu. C'est aussi oral, mais ils l'entendent lu à partir d'un livre. Et à ce moment-là, les Bnei Israël vont répondre la même chose. Ils ont déjà répondu deux fois comme ça. D'accord? Parce que Hachem a dit, on va le naaseh. Et cette fois-ci, ils vont répondre Kol asher diber Hachem naaseh ve'nishma. Et ils vont rajouter ve'nishma. On fera et on entendra. Alors, Moshe, ensuite, il a pris le reste du sang et il l'a jeté sur les Bnei Israël. Et il a dit, voilà ce sang de l'alliance qu'Hachem a scellé avec vous sur toutes les paroles, sur toutes ces paroles. Ces paroles. L'alliance, elle ne concerne pas la Aseret HaDibrot pour Rashi. Rashi dit que cette paracha qui est écrite dans Mishpatim, il faut la déplacer, il faut l'imaginer écrite avant Matan Torah. Elle est écrite maintenant dans Mishpatim, c'est-à-dire après. Après Aseret HaDibrot. Aseret HaDibrot, on a lu ça la semaine dernière. D'accord? C'est écrit après. Mais il y a un principe qui dit que En Mugdam Mochar Batorah, dans la Torah, il n'y a pas obligatoirement d'ordre chronologique. Eh bien, c'est les Bnei Israël, là, ils se sont engagés pour ce qui est ce que Moshe Rabbeinu a lu du Sefer qu'il venait d'écrire et dans lequel il y a une partie de ce qu'ils avaient déjà entendu oralement sans que ce soit lu d'un livre. Il y a donc la différence entre ce qui est dit par Moshe et ce qui est lu par Moshe. Même les mêmes mots, les mêmes choses dites par Moshe ou lues par Moshe, c'est quelque chose de complètement différent. L'alliance, elle est à ce moment-là. Mais c'est une alliance avec, on va dire, l'alliance, elle a lieu avec la Mila qu'ils ont faite avant de sortir d'Égypte parce que c'était nécessaire aussi pour pouvoir manger du Korban Pessah. On ne pouvait pas manger de Korban Pessah si on n'avait pas fait la Mila. Ensuite, il y a cette Hazaa, ça s'appelle Hazaa, cette aspersion-là qu'on a faite. Et il y a une halakha qui dit qu'il n'y a jamais d'aspersion sans qu'il y ait préalablement eu une tevila, une immersion dans un mikvé. Donc il y a eu Mila, Tvila, Mikvé, et du sang d'un corban. Et c'est comme ça que on entre aujourd'hui encore dans la Torah, sauf que comme on n'a pas de corbanote, on peut pas faire ça, et c'est pas Me'akev, ça veut dire ça n'empêche pas d'être un parfait converti. Si on a seulement fait la Mila et la Tvila, ou les femmes seulement la Tvila. Et quand le temps viendra, les gens qui se sont convertis, ils auront une obligation d'apporter un korban. Un korban qu'ils n'ont pas pu apporter parce que faute de Beth Amikdash.
Pour le ça n'arrive pas les chevaliers, cette
Non, il n'a pas répété les Shevah Mitzvot des Bnei Noach.
première comme par
C'est la même chose que moi, mais ça, il ne l'a pas répété. Donc, en vérité, les Bnei Israël se sont engagés aussi sur les Shevah Mitzvot des Bnei Noach, tout ça avant recevoir la Torah, mais leur engagement plus avant, celui qui est vraiment présenté comme étant le Brit avec Hachem, le Brit, donc, ne comporte pas les Sheva Mitzvot des Bnei Noach, auxquels ils sont astreints de toute manière, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire jusqu'à ce que toutes les mitzvot des Sheva Mitzvot des Bnei Noach, elles sont répétées, mais avec des dimensions différentes, avec des petits changements, des grands changements, comme mitzvot donnée au Bnei Israël. Donc, on peut dire à peu près que quand les Bnei Israël accomplissent les mitzvot, les sept mitzvot dans la version Torah, ils accomplissent en même temps les mitzvot dans la version non, enfin la version pour Bnei Noach. Bien que dans les Onshim, c'est pas toujours la même chose. Dans les sanctions, c'est pas la même chose en particulier. Les dînimes ne sont pas exactement les mêmes. Par exemple, le tu ne tueras pas des sept mitzvot des Bnei Noach n'est pas le même que le tu ne tueras pas des Bnei Israël. Par exemple, au titre de tu ne tueras pas, les goïms, ils ont un interdit de tuer les fœtus. Pas le droit de tuer un fœtus dans le ventre de sa mère. Et s'ils le font, ils transgressent, tu ne tueras pas. Chez nous, on n'a pas le droit de tuer, mais si on le fait, on transgresse pas, tu ne tueras pas. C'est un autre interdit. C'est pas le tu ne tueras pas des Aseret HaDibot. Sur les fœtus. Par exemple, c'est un exemple de différence. Non, a priori, tel que Rashi le décrit, le Naaseh v'Nishma, il ne porte pas sur. Et ce n'est pas dit qu'on va faire tout ce qu'Hachem nous dira. D'accord? C'est un passé. Ah non? Oui, ben, c'est juste avant, maintenant, temps, parce que. Ah non? Oui.
Sur la minorité, en fait.
Oui. Il porte sur les schémas mitzvot des Bnei Noach, dites par Dracha, quoi. Et les schémas mitzvot et les Mara et la Mila. C'est très étonnant. Parce que tout le monde considère que quand ils ont dit Naaseh v'Nishma, c'est surtout de la Torah. Alors, ça, c'est la chita de Rashi. Le Ramban et d'autres ne sont pas d'accord avec Rashi. Eux, ils veulent dire que, non, non, pas du tout. Ce qui est raconté ici, ça a lieu après Matan Torah. Mais bon, il faut expliquer tout ça différemment et il y a des difficultés sur Rashi, il y a des difficultés sur les autres aussi. C'est pas évident du tout. Alors, ce qu'il faut essayer de comprendre un peu, c'est quoi la différence entre entendre les choses dites par cœur, si vous voulez, ou les entendre dites par le même personnage, mais sous forme de lecture. Moshe Rabbeinu lisait un livre qu'il avait écrit, mais ce qu'il lisait, ce sont des choses qu'il avait déjà dites et sur lesquelles les Bnei Israël s'étaient déjà aussi engagés. Ils avaient dit Naaseh, Kol Asher Diber Hashem, Naaseh. On avait parlé de ce que, quand les Bnei Israël étaient en Égypte, quand ils étaient esclaves, le Shabbat, ils faisaient Shabbat, enfin ils ne travaillaient pas le Shabbat, et le Shabbat, ils avaient des rouleaux, vous vous souvenez? Ils avaient des rouleaux qu'ils lisaient, des rouleaux dans lesquels on parlait de la libération. On parlait donc de quelque chose qui était totalement impensable. D'accord? Même après coup, on ne comprend pas comment on a pu sortir d'Égypte, mais avant que ça ait lieu, c'était totalement impensable. Mais néanmoins, les Bnei Israël, le Shabbat, ils pouvaient rêver. Quelque part, il y a eu une préparation dans la tête, en quelque sorte. D'abord, d'une part, cette notion de sortir de libération, je ne sais pas si ça avait un contenu. Quel était le contenu de cette libération? Libération, qu'est-ce que c'est la libération? D'une part, et d'autre part, quand vous avez un texte, alors on peut jouer avec les mots. Quand c'est tout oral, c'est difficile de jouer avec. Mais les mots qui sont devant vous, on peut jouer, on peut imaginer les permutations de lettres, etc., de déplacer un mot, le mettre ici, etc. On peut rêver à partir de ce texte et on peut imaginer plein de choses à partir d'un texte. Et c'est ça la grande différence. C'est que, quelque part, en leur lisant les choses, alors, ça ouvre l'esprit en quelque sorte. Le fait que ce soit écrit et qu'on puisse travailler sur l'écrit, ça ouvre des horizons pour les Bnei Israël. Et du coup, ça leur a permis, en quelque sorte, ça leur a permis de se familiariser avant la sortie pour éventuellement envisager quelque chose. Mais surtout, c'est une forme de préalable de ce qui va être appelé la Torah chez Baal Peh. Parce que la Torah chez Baal Peh, c'est bien une Torah orale, mais c'est une Torah orale qui vient se greffer sur un texte avec lequel on prend plus ou moins de liberté quand on lit ce texte. Mais ça part d'un texte. On travaille sur ce texte. Donc, ça c'est pour la version de Rashi de ce Sefer Abrit, avec bon, des questions, mais aussi, cette certaine manière, cette richesse du texte avec lequel on peut travailler, on peut penser. Rachia, donc, il nous présente donc toute cette histoire-là comme un préalable à Kabbalat Torah. Rachia a l'air de penser que pour que le peuple puisse recevoir des Aseret HaDibrot, il faut d'abord qu'ils entrent en alliance avec Hachem. Les Aseret HaDibrot, parce que quand vous regardez les Aseret HaDibrot, il n'y a aucun engagement dans les Aseret HaDibrot. Hachem a parlé, c'est tout. Ils ont entendu Hachem parler. Mais il n'y a pas de déclaration après les Aseret HaDibrot disant on s'engage. Alors d'après les autres, ils vont dire tout ce qui est dit ici, c'est après Aseret HaDibrot. Donc quand ils disent Naaseh V'nishma, ben, on peut dire que ça porte sur les Aseret HaDibrot. Mais dans Pré-Rachis, ça ne veut pas dire comme ça, puisque Rachis dit que tout ça se passe avant Matan Torah. Alors, l'alliance, même si dans le livre ce n'est pas répété, mais dans ce qui a été dit avant, il y a les Sheva Mitzvot des Bnei Noach, les lois Noachim, d'abord. Et puis, il y a les lois qui ont été données un peu avant le Sinaï, à Mara. Donc, quelque part, c'est C'est pas que les Bnei Israël se sont engagés pour Rachi. L'engagement, il n'était pas sur un texte complet. Il n'y avait pas toute la Constitution, ils ont accepté la Constitution. Ils ont dit, on va entendre. On va entendre, mais si vous voulez, tout ce qu'Hachem a dit, on va le faire. OK, alors, voilà, Hachem a dit, faites ceci, et nous, on le fait. Mais si c'est par rapport à du passé, ça veut dire quoi, Venishma? Venishma et entendra, ça ne peut pas porter sur le passé. Obligatoirement, Venishma, ça porte sur le futur. C'est-à-dire, on va faire et on va entendre. Mais on va faire, on va faire ce qui a été dit et on va entendre. Mais ça a déjà été dit, il n'y a rien à entendre. Qu'est-ce qu'il faut entendre? C'est quoi le. Qu'est-ce qui est entré dans leurs oreilles? Oui, alors on peut dire, on va peut-être comprendre mieux mieux comprendre ce qui a été dit. C'est un peu compliqué. C'est la reconnaissance de ce qu'il. Ben sur le moment. Il faut imaginer que les Bnei Israël, bon, est-ce qu'on pouvait dire ça? C'est comme si Moshe les invitait à entendre un texte qui est lu, mais il faudra que vous l'entendiez. Je vous l'ai dit, je vous l'ai mis dans l'oreille, en quelque sorte. Et bon, à vous de l'entendre. C'est-à-dire, effectivement, ils vont travailler. C'est pas qu'ils vont entendre autre chose. Mais ce que je vous ai dit là, c'est à vous de l'entendre. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir que vous imaginiez plus que ce que vous avez directement déjà entendu. Parce que ça, ils ont déjà dit, ça, on va faire. Ce qu'on a déjà entendu, on va le faire. Mais on va encore entendre. Qu'est-ce qu'on va encore entendre? C'est pas qu'il va continuer de parler, c'est arrêté. Le livre, il est terminé. Le Sefer HaBrit, a priori, on sait pas, ici, dans ce texte, on ne voit pas que ce soit un livre à compléter. Il est fermé, le livre. Il est terminé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est terminé? Si je dis que c'est un livre qui raconte tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Alors, du coup, on peut penser que ce livre, il vient faire le récit d'une époque qui est terminée. C'est-à-dire, il vient ouvrir une nouvelle époque. Bon, si. Il a écrit là, voilà. Le livre termine, donc si le livre termine, il indique la terminaison d'une époque, c'est-à-dire l'époque d'avant Matan Torah est terminée. Et c'est une époque pour soi. Et du coup, maintenant, il y a une nouvelle époque. Et cette nouvelle époque, dans cette nouvelle époque, ils n'ont rien. Il n'y a pas de. C'est fini. C'est le vide. Après, voilà, justement, la nouvelle époque qui commence quand finit le livre. À ce moment même, il n'y a encore rien. Maintenant, Hachem va parler. Et donc, cette parole d'Hachem, vous savez bien que ces fameuses 10 paroles d'Hachem, elles sont toujours mises en rapport avec les Asara Ma'amarot de Bereshit. Dans Bereshit, il y a 10 paroles, 10 paroles créatrices. 10 fois, Vayomer, Hachem a dit, Yehi Or, qui est la lumière, etc. 10 fois. En fait, c'est 9 fois, mais bon, voilà, on ne va pas en discuter là-dessus. Voilà, 10aine de fois. Et puis, Aseret a 10 brotes, c'est 10 dvarim, 2 paroles, 10 paroles, pardon, aussi. Et donc, ces 10 paroles sont un peu comme le pendant des 10 paroles qui construisent le monde. Seulement, ces 10 paroles-là, elles sont des paroles qui vont construire le nouveau monde d'Ebné Israël. Alors, c'est très intéressant parce que sur ces fameuses 10 paroles, vous avez dit que c'est présenté dans la Torah en disant que Hachem, il a dit les 10 paroles tout ensemble. Que personne ne peut faire, mais que personne non plus ne peut entendre. Si je fais un parallèle entre ces 10 paroles et les 10 Ma'amarot, les 10 paroles de Bereshit, c'est les paroles qu'Hachem a dites, on peut presque dire pour lui-même. Il n'y avait personne pour écouter. Il s'adresse à la terre, etc. Mais bon, il n'y a pas d'homme. Jusqu'à la création de l'homme, il n'y a pas d'homme. Et après, c'est fini. Après l'homme, il n'y a plus de création. S'il plaît. Alors, si je dis maintenant que les 10 paroles d'Aseret HaDibrot qui ont été dites par Hachem, mais qui sont audibles par personne, on est de nouveau dans la même chose, la même situation. Ces 10 paroles-là sont elles aussi dites par Hachem pour lui-même, pratiquement, ou pour le monde. Ça, et de la même manière que ça commence pas par une acceptation par les hommes de quelque chose, ici non plus, ça commence pas par une acceptation. À Aseret HaDibrot, ça ne demande pas une acceptation dans le texte. Alors, après, on va expliquer qu'en fait, Hachem a proposé la Torah, etc. Mais les Aseret HaDibrot qu'il a dites, Vayomer Elohim, Elohim a parlé, voilà, il a dit une parole. Alors, la grande différence, c'est que après avoir dit ces choses pour lui-même, Hachem les a redites pour que nous les entendions. Il les a séparées. Il les a dites une après l'autre, les 10 paroles, au lieu de les dire toutes en même temps. Et normalement, on aurait dû entendre d'Hachem les 10 paroles. Mais au bout de deux, on n'a pas voulu continuer. On a eu peur, les ministres ont eu peur. Ils ont dit à Moshe, c'est toi qui vas nous le dire. Toi, écoute ce qu'Hachem a à dire et tu nous le répètes. Et donc, il n'en a entendu que les 2 premières. Tel que c'est décrit, les 2 premières, quand ils les ont entendues, ça c'est déjà le Coran Shebaal-Peh, explique qu'ils ont été précipités en arrière, les Israël. Ils sont morts et ils ont ressuscité avec la parole qu'ils avaient entendue en eux. Elle est devenue une partie d'eux-mêmes. En d'autres termes, ils ne pouvaient pas faire autrement que de vivre selon cette parole. Elle est en eux. Alors, quand Hachem se dévoile, on ne peut pas faire autre chose que de faire ce qu'il a demandé. Toute notre capacité de faire autrement que ce qu'il a demandé, Ça vient de ce qu'on appelle le Tzimtzum, que Hachem s'est restreint et nous a laissé la possibilité de. Mais s'il devenait en pleine lumière, la lumière, on ne pourrait pas, on peut pas faire autre chose que de faire ce qu'il a demandé. Donc la première parole était fichée en eux. Ils ont entendu la deuxième, même tableau, précipité en arrière, ils meurent, ils ressuscitent, avec la deuxième aussi en eux. S'ils avaient entendu les 10, dit Ramban, l'histoire était terminée. Parce qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient plus faire, c'est tout. Voilà, ils ont. En d'autres termes, s'ils avaient entendu tout ça, alors le Sefer HaBrit qui finissait la période, c'est la fin de l'histoire. Toute l'histoire, c'était quoi? L'histoire, c'était la sortie d'Égypte. Il fallait vivre la sortie d'Égypte et recevoir la Torah, et se préparer à recevoir la Torah. Et ça, c'était, d'après Rashi, c'était ça l'histoire du monde. Seulement, les Bnei Israël, ils n'ont pas accepté. Et comme ils n'ont pas accepté, les autres paroles, ils ne les ont pas entendues d'Hachem. Ils les ont entendues de Moshe. Et les ententes de Moshe, c'est bouleversant, mais pas à ce point-là. Et du coup, les deux autres non plus, elles ont disparu parce que c'était fait pour être entendu comme un tout. La Sefirot HaLibrot, ça forme un tout. Donc, ça n'a pas de sens de prendre. C'est comme si on faisait son marché, quoi. On prend les deux premiers, on ne prend pas les autres. Donc, si vous voulez, on peut très bien comprendre que c'est tout. C'est une nouvelle création d'un nouveau monde. Donc, ben c'est ça, c'est quoi le Olam Haba, par exemple, c'est quoi? Quand on aura terminé ce monde-ci, on va passer dans un autre monde. Et les Mekoubalim, ils disent que après ce monde-ci, il y aura un septième millénaire, qui sera comme une espèce de Shabbat. Et puis ensuite, il va y avoir trois millénaires successifs jusqu'à 10. Et après, on recommence complètement. On recommence. Et le Gaon dit qu'on est maintenant dans le deuxième cycle déjà. Bon, on est maintenant dans les 6000 du deuxième cycle. Il y a déjà eu 10 000, si vous voulez, avec 6000 plus 1 000, 6000 comme la semaine et 7000, un millénaire comme le Shabbat, et puis ensuite 3 millénaires, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. Et puis on a recommencé. Voilà. Alors on pourrait très bien dire que voilà, il y a un monde qui se termine avec le Sefer HaBrit. Il racontait, les Bnei Israël, tout ce qu'on leur demandait, c'est s'engager. Une fois qu'on est engagé, on peut pas se. On est sérieux. Si on s'engage devant Hachem, on va pas ne pas être à la hauteur. Ils sont engagés, voilà, c'est tout. On leur demande de s'engager. Au fond, ce qui nous est demandé en permanence, c'est notre volonté de faire. Pour le reste, ça ne dépend pas toujours de nous. On peut vouloir, mais bon, si on veut vraiment, c'est tout ce qu'on nous demande. Veuille vraiment. Voilà, on s'arrête là.